Bienvenue dans Le Débat. Quand on imagine le poste de Premier ministre, bon, on pense souvent à un mandat direct du peuple censé résister aux tempêtes.
Ouais, exactement. Mais l'Australie nous prouve qu'une simple réunion à huis clos peut décapiter un leader du jour au lendemain.
C'est fou, hein? Aujourd'hui, on plonge dans la nuit du 7 septembre 2013, les élections fédérales qui mettent fin à 6 ans de pouvoir travailliste.
Avec la coalition libérale nationale de Tony Abbott qui rafle quoi, 90 sièges?
Écrasant les 55 sièges de Kevin Rudd.
Voilà, la question en fait, c'est de savoir si ce scrutin et toute l'instabilité autour illustrent une faille structurelle du système parlementaire de Canberra, la fameuse loi des coups d'État internes, ou si ça démontre l'impact implacable de la stratégie politique. Et moi je soutiens que cette période, elle révèle avant tout une crise mécanique de ces institutions. D'accord, mais mon point de vue est différent. Pour moi, ces victoires et ces chutes ont été strictement dictées par la résonance des politiques et la brutalité d'une campagne redoutable sur l'opinion publique.
Alors, ce que les électeurs ont sanctionné en 2013, c'est pas un bilan gouvernemental, hein. C'est un feuilleton institutionnel.
Un feuilleton ?
Ouais, dans le système de Westminster, le Premier ministre, il n'a pas de mandat direct des citoyens. Il n'est que le chef du parti majoritaire.
C'est vrai, oui.
Du coup, si son groupe parlementaire, le caucus, décide qu'il devient un fardeau électoral, une simple motion interne suffit à le destituer sur le champ. Et le parti travailliste a, disons-le, abusé de cette mécanique.
Ah, vous parlez de 2010 ?
Exactement. En 2010, Julia Gillard renverse Kevin Rudd. Et à peine 3 mois avant l'élection de 2013, sentant la déroute, 57 députés contre 45 décident de rappeler Rudd et d'écarter Gillard.
Mmh.
Les travaillistes étaient juste paralysés par ces guerres intestines. Le système donne un pouvoir de vie ou de mort à une poignée de parlementaires dans les couloirs de Canberra.
Je comprends l'argument institutionnel, mais l'ampleur de la victoire de la coalition s'explique par la stratégie, pas par l'usure procédurale.
Ah bon, vous pensez ?
Oui, enfin, Tony Abbott a mené une campagne féroce autour de slogans conçus pour imprégner les esprits, vous savez, le fameux « axe de taxe » pour supprimer la taxe carbone.
Ouais, un slogan très efficace, c'est sûr.
Et arrêter les bateaux de demandeurs d'asile, rétablir l'équilibre budgétaire. Face à cette simplicité clinique, Kevin Rudd s'est présenté sans message clair. Les coups d'État internes ont fait les gros titres, certes, mais dans l'isoloir, c'est la lisibilité d'un projet qui a tranché.
D'accord, mais si le message et le projet priment réellement, Tony Abbott n'aurait pas dû subir exactement le même sort que ses adversaires.
Attendez, comment ça ?
En septembre 2015, en plein mandat, il est à son tour assassiné politiquement par son propre camp et remplacé par Malcolm Turnbull. La même mécanique interne, utilisée cette fois par les conservateurs, a broyé le vainqueur incontesté de 2013. La dynamique de cour et les trahisons partisanes, ça dévore toute logique de mandat populaire, vous ne trouvez pas ?
Pas tout à fait. La fronde de 2015 contre Abbott, elle n'a pas émergé d'un vide institutionnel ou d'une simple règle parlementaire.
Pourtant, c'est le même mécanisme de vote interne.
Le mécanisme, oui, mais le caucus a agi en réponse à des erreurs factuelles, des erreurs profondes de gouvernance. Abbott a présenté un budget d'austérité perçu comme profondément injuste par la population.
C'est vrai que ce budget a fait mal.
Et ensuite, il a pris des décisions perçues comme lunaires, notamment le fait d'anoblir le prince Philippe.
Ah oui, ce fameux titre de chevalier.
Voilà. Ça a provoqué la consternation jusque dans ses propres rangs. La règle du vote interne, c'est qu'un outil de correction. C'est l'impopularité réelle de ses choix qui a forcé son parti à dégainer cet outil.
Peut-être, mais cet outil dicte la longévité politique bien plus que l'opinion. Malgré ce chaos apparent, la coalition conservatrice a réussi à se maintenir au pouvoir pendant près de 9 ans sous Turnbull puis Morrison.
Ouais, 9 ans, c'est très long en politique.
Et le balancier n'est revenu aux travaillistes avec Anthony Albanese en 2022 puis renforcé en 2025 que lorsque le camp conservateur s'est retrouvé à son tour privé d'un leadership stable. Le cycle de l'usure interne conditionne systématiquement les grands mouvements électoraux.
Je maintiens que le vote populaire reste le véritable moteur. Les parlementaires ne s'agitent dans l'ombre que lorsqu'ils sentent que l'opinion publique leur échappe définitivement. L'élection de 2013 montre comment une campagne agressive exploite les faiblesses d'un adversaire.
C'est un point valide.
Et la chute d'Abbott prouve, qu'un message simpliste ne suffit pas à masquer une mauvaise gouvernance à long terme.
Bon, on ne résoudra pas aujourd'hui si la peur des urnes dicte les complots de couloir ou si c'est l'inverse.
Non, c'est clair qu'il y a encore beaucoup à analyser de cette période.
L'élection de 2013 marque vraiment l'entrée dans une ère complexe. Les dirigeants australiens doivent constamment surveiller la salle de réunion de leur parti autant que la rue. Le véritable pouvoir de Canberra réside dans cette tension permanente où tout se gagne et se perd sans que les électeurs ne glissent un seul bulletin dans l'urne.